Bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas à quelle heure il est. Merci d'être venu. Je ne sais pas où sont les 600 étudiants qui devaient être là, mais je pense qu'ils ne viendront que pour les tables rondes. Alors, chaque année, l'Association française de sciences économiques remet des prix des livres dans trois catégories qui sont d'une part la catégorie essai, d'autre part la catégorie poche et enfin la catégorie manuel. Alors on avait un choix, chaque année les choix sont différents. Le jury était composé de Pascal bien évidemment, de Martine Carré-Talon qui est ici, de Françoise Benamou, Jean-Eudes Moncomble, Jean-Marc Vittori, j'en oublie des quantités, hein, de trois Sophie Brana évidemment. Je crois que j'en oublie. Hein. Bon, et moi. Et donc, nous avons cette année, alors il arrive qu'il y ait des ex-échos et tout, nous avons cette année primé trois ouvrages. Alors, il n'y a aucun suspense puisque c'est affiché, donc je ne sers à rien. Vous avez les noms là, que je vais rapidement vous présenter. Alors, il y a juste un rituel de l'AFSE depuis quelques années qui est que nous offrons des livres anciens d'économie en se disant que c'était plus amusant qu'un chèque. Des livres anciens d'économie en guise de prix, donc il faut passer un certain nombre d'heures à essayer de trouver quel livre d'économie ancien corresponde à quel ouvrage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les présenter au fur et à mesure, et puis je demanderai aux auteurs qui sont là de rapidement présenter leurs ouvrages. Alors, je vais commencer par l'essai, je prends le premier sur la pile. Donc, Éric Monnet, est-ce qu'on met qui? Tu es là, non, on met simplement le titre. Alors, Éric est directeur d'études à l'EHESS, il a travaillé à la Banque de France, et avec cet ouvrage, la Banque Providence, démocratiser les banques centrales, il présente un essai très synthétique, très clair, qui condense une littérature tout à fait dense et importante, de manière extrêmement, extrêmement claire, autour de quatre grands thèmes. Premièrement, banque centrale, monnaie et État-providence, donc sur le système monétaire comme bien public, sur la dette publique, sur les liens entre banque centrale et État-providence. Les mystères de la création monétaire, le titre parle de lui-même, de l'achat de dette publique à la monnaie digitale, sur la crise des dettes européennes, les relations entre banque centrale, démocratie et politique monétaire, tout ça étant plus d'actualité avec la conjoncture actuelle. Et puis, l'ouvrage se clôt sur un dernier chapitre, démocratiser les banques centrales, sur les failles du dialogue démocratique qui entoure la gestion de l'euro et du crédit au niveau européen. Donc, on a trouvé que c'était un essai courageux qui prenait position et qui, en même temps, donnait une présentation extrêmement synthétique. Alors, le prix d'Éric. C'est un côté distribution des prix, j'ai l'impression d'être une instite de l'époque des hussards noirs de la République. Est-ce qu'il y avait des hussardes? On parle toujours. Alors, j'ai décidé que Éric, qui visiblement a lu toute la littérature depuis 70 ans sur cette question, et on le voit dans son ouvrage, n'avait pas été peut-être, en dépit de sa formation d'historien, un peu plus loin. Et donc, il y a un certain nombre de discours sur l'inflation prononcé en septembre 1790 à la tribune de l'Assemblée constituante par Mirabeau, blablabla, Dupont de Nevours, l'abbé Maury, etc., pour ou contre les assignats. Donc l'AFSE est ravi, mon cher Éric, de te primer avec cet ouvrage et on te laisse présenter ton livre.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis extrêmement honoré et ravi de recevoir ce livre et ce prix. Je peux présenter effectivement très rapidement cet ouvrage qui s'appelle La Banque Providence, qui est un ouvrage publié dans cette collection, vous connaissez sans doute, La République des idées au Seuil, donc qui est une collection qui vise à prendre position, effectivement, Annie l'a rappelé, mais aussi à essayer de vulgariser, en tout cas de rendre les termes du débat économique accessibles au plus grand nombre, et c'est ce que j'ai essayé de faire sur ce thème des banques centrales. J'en profite d'ailleurs pour remercier notamment les deux éditeurs de cette collection qui ont eu un vrai rôle dans cet ouvrage, à la fois Pierre Rosanvallon, avec qui j'ai beaucoup échangé, et certains reconnaîtront sans doute dans le titre La Banque Providence un petit clin d'œil à une grande partie du travail de Pierre Rosanvallon sur l'État-providence, qui est un thème qui est aussi développé dans l'ouvrage. Et puis Yvan Jablonka, qui est aussi le co-directeur de cette collection, qui fait un très grand rôle pour faire en sorte que la prose d'un économiste soit accessible au plus grand nombre, et ce qui n'est pas toujours facile, surtout sur des sujets aussi compliqués que la technique des opérations des banques centrales. Alors le point de vue de ce livre, c'était effectivement de rendre accessible au plus grand nombre la technicité des opérations des banques centrales et des enjeux politiques, avec la conviction, bon, qui est largement partagée, mais qui n'est pas toujours si connue au-delà des économistes, que le rôle des banques centrales est aujourd'hui éminemment politique et un rôle très fondamental, à la fois dans le soutien aux économies, mais aussi dans la structuration des institutions politiques des différents pays. Et le livre donc pointe d'abord les enjeux des politiques des banques centrales aujourd'hui, donc évidemment la question de l'inflation, ça je pense qu'elle revient et tout le monde en est aujourd'hui conscient, la question environnementale qui a aussi beaucoup été discutée, c'est-à-dire, et la question de la gestion de la dette publique. Vous savez que pratiquement toute la dette publique pendant la crise du Covid a été achetée par les banques centrales, donc qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques, en termes aussi politiques. Et puis une question qui est un petit peu moins aujourd'hui débattue, mais qui va sûrement avoir une importance décisive dans les années à venir, c'est celle des monnaies digitales, donc à la fois les monnaies privées comme sont le Bitcoin, etc., dont on commence déjà la régulation. On en est vraiment au début, et puis la possible émission de concurrents, on va dire, publics à ces monnaies digitales privées, qui seraient des monnaies émises par les banques centrales, ce qui pose des grandes questions, non seulement économiques, mais aussi vraiment juridiques et politiques, et sans rentrer dans toutes les discussions qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment voilà, le fil rouge de ce livre, c'est d'essayer de pointer, de mettre en évidence les enjeux politiques, vraiment politiques, de toutes ces actions apparemment, surtout techniques, très technocratiques des banques centrales. Et à la fin, le livre conclut sur le fait que le cadre institutionnel qui a été développé dans les années 90 est aujourd'hui plus vraiment adapté à ces enjeux. Donc il va falloir le réformer, ce qui ne veut pas dire qu'il faut revenir sur l'indépendance des banques centrales, qui est un acquis, je pense que dans une société démocratique, on peut totalement s'en accommoder, et au contraire même s'en réjouir sur certains points, mais que les questions de coordination de ces politiques avec d'autres politiques macroéconomiques sont aujourd'hui dans le vide, et qu'il faut institutionnaliser, donner des lieux pour penser ces coordinations, et donner aussi un meilleur contrôle démocratique, notamment donner des armes, des outils au Parlement, pour pouvoir mieux contrôler ces politiques. Et c'est sur quoi le livre se conclut par ce quatrième chapitre qui, comme l'a dit Annie, prend position et propose de nombreuses réformes pour arriver à une meilleure coordination de ces politiques, un meilleur contrôle démocratique. Je vous remercie encore une fois.
Alors, deuxième catégorie, les poches. Le jury a primé l'ouvrage L'emploi et le territoire de Thomas Delmotte, Francis Kramartz et Benoît Schmutz, qui sont tous les trois au CREST. Thomas est doctorant, Francis est professeur à l'ENSAE et chercheur au CREST, et Benoît est professeur à l'IX et chercheur au CREST. Alors le sujet, ce qui a frappé le jury, c'est que le sujet est très original. Traiter la question de l'emploi à partir du territoire, c'est tout à fait intéressant. Donc l'idée, c'est d'associer la réflexion sur l'emploi, donc sur chômage et emploi, à la réflexion sur la mobilité, sur les inégalités régionales et sur les possibilités ouvertes à l'action publique. Donc voilà, c'est ramassé, original, et ça valait absolument que l'on décerne le prix du meilleur livre d'économie dans la catégorie poche. Alors, les prix sont où ? Alors, les prix, il y a trois. Je commence par Thomas, évidemment. Alors, on a trouvé un fonds de bibliothèque, essai sur le développement de la théorie du salaire. Il est joliment relié, il est énorme. Lorsque vous aurez lu tout, vous pourrez boucler la thèse. Et puis, il y en a deux autres. Alors, je laisse... Thomas et Benoît jouaient ça au poker. Il y a Jules Simon sur le travail, qui est un grand classique, qui est un bouquin absolument merveilleux. Et un ouvrage, c'est rare d'avoir des ouvrages sur le chômage, puisque comme vous le savez, la question du chômage n'apparaît, n'émerge dans la théorie économique que autour des années 20 et 30. Et donc, là, il y a un ouvrage de Raymond Castro, docteur en droit, il n'y avait pas de docteur en économie à l'époque, qui s'intitule « Les causes du chômage ». Voilà, on vous laisse présenter.
Oui, bonjour à tous. Je vais laisser la parole à Thomas.
Bonjour à tous. Merci pour ce prix. On souhaitait aussi profiter de l'occasion pour remercier nos éditeurs qui nous ont aidés à la rédaction, André Zilberberg et Pierre Cahuc, et la chaire sécurisation des parcours professionnels qui a aussi donner son point de vue sur l'ouvrage. Donc le point de départ de l'ouvrage, c'est de se poser la question de la dimension géographique du marché du travail, et donc comment l'espace intervient dans les appariements entre les employeurs et les salariés. Donc la première partie se pose la question de définir la géographie pertinente pour considérer le marché du travail, et donc on argumente que l'échelle pertinente, c'est celle de la ville, et qu'une bonne définition de la ville, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aire urbaine, qui se définit à la fois par un pôle central qui concentre l'emploi, et puis un gradient décroissant de densité de population autour de ce centre. Et l'aire urbaine, ce qui est intéressant, c'est que ça aussi englobe le périurbain, qui s'est développé avec l'émergence de la voiture. Et donc ça définit pour nous le marché local de l'emploi, où les travailleurs habitent et travaillent. Mais en fait, ces aires urbaines sont aussi connectées entre elles par les mobilités résidentielles des travailleurs, mais aussi les mobilités des entreprises qui s'opèrent plutôt par la création de nouveaux établissements, et donc les multi-établissements qui vont mailler le territoire. Donc ça, c'est la deuxième partie, comment les gens accèdent à de nouveaux emplois dans d'autres aires urbaines, et donc on décrit les frictions qu'ils rencontrent dans ces mobilités au cours de leur carrière. Et donc, forcément, le décideur public agit sur ces frictions induites par la géographie sur le marché du travail. Et donc, la troisième partie décrit les évaluations qu'on connaît à ce jour sur les politiques du marché du travail et leur dimension spatiale. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque de prise en compte systématique de la géographie dans la définition des politiques de l'emploi, qu'on regrette. Pour autant, il y a quand même des interventions localisées comme les zones franches urbaines, par exemple, ou les emplois francs qui ont pu être mis en place, mais qui n'ont pas rencontré un grand succès. Et les solutions pour lesquelles on plaide davantage, c'est d'agir sur l'immobilier et l'accès des travailleurs à l'habitat le plus proche de leur emploi. Et donc ça, on a des solutions qui sont, par exemple, densifier le bâti par l'ajout d'étages, par exemple, sur des bâtiments historiques. On a aussi le multimodal qui permet, à partir d'un réseau ferré par exemple, d'avoir un accès via le vélo pour permettre aux périurbains d'être moins consommateurs en énergie carbonée, par exemple. Et enfin, la redéfinition aussi de l'échelle politique d'intervention, parce qu'en fait, si la ville est dynamique et grossit de décennie en décennie, et l'étalement urbain en est une bonne représentation, les échelles administratives, elles sont relativement rigides, et nos communes et départements ont plus de 200 ans. Et donc, une idée, ça serait de redéfinir des échelles administratives qui soient en cohérence avec l'échelle géographique du marché, des marchés locaux de l'emploi. Merci beaucoup.
Bien, le troisième. Alors, j'ai oublié Lionel Rago dans le... dans le jury tout à l'heure, je savais qu'il m'en manquait un. Alors le troisième prix dans la collection Manuel, c'est une première. Ça m'a fait penser, je vois Xavier Rago qui est ici. Il y a quelques années, nous étions dans un prix du meilleur article économique et financier, et nous avions privé une bande dessinée dans cette formidable revue que je vous incite tous à lire, qui s'appelle la Revue Dessinée. Et là, on a pour la première fois un manuel en bande dessinée qui est absolument formidable. Alors, c'est un manuel qui est dessiné par Enzo, que vous connaissez tous, j'imagine que vous avez tous une bibliothèque de BD largement aussi importante que votre bibliothèque d'ouvrages de théorie économique ou d'économie appliquée, qui est aussi journaliste à Alternative Économique, Isabelle Bensadoun et Sébastien Jean, qui sont tous les deux chercheurs au CEPI. Je crois qu'il y en a une qui est directrice adjointe, l'autre qui a été directeur, enfin bon, qui sont des apparatchiks du CEPI, on peut dire ça comme ça. Et alors, la BD est formidable pour plusieurs raisons. Première raison, elle commence par une réflexion épistémologique. Moi, c'est un peu mon métier dans cet étrange milieu des professeurs d'économie. Et elle commence par une question qui est comment raconter la mondialisation en BD. Et donc, on les voit boire des coups, se réunir, raconter qui ils sont et dire on fait comment. Il faut commencer par définir qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend. Et cette réflexion n'est pas simplement une histoire de comment commencer une BD, mais c'est une vraie réflexion sur comment faire un manuel quelques pages. Il est plutôt plus gros que les autres, je sais pas combien de pages il fait, bloom, 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 250, sur qu'est-ce que c'est que la mondialisation. Et l'exercice est très réussi. Il est réussi à plusieurs titres. Premièrement, pour la construction, donc il est organisé autour de trois parties, tous dans le même bateau, c'est-à-dire la question de la délocalisation de la production, la circulation des biens et des hommes. Ces questions de circulation, encore une fois, rencontrent une actualité, malheureusement, si j'ose dire, à cause des événements en Ukraine. Deuxièmement, il était une fois la mondialisation sur l'historique de la mondialisation. Et troisièmement, la grande défiance sur les questions actuelles qui se posent autour de la mondialisation, sur la croissance, le pouvoir d'État, les gagnants, les perdants, le rôle de la finance, l'effet de la mondialisation sur l'environnement, et on pourrait ajouter aujourd'hui l'effet de la mondialisation sur le déroulement de la guerre en Ukraine. Les explications sont extrêmement claires. Il y a des références sur les grands auteurs tout à fait claires. Il y a un certain nombre de pleines pages sur Milton Friedman, Ricardo, Cobden, etc., qui sont tout à fait passionnantes. Et donc, nous avons été ravis de pouvoir conseiller à tous les étudiants de France, de Navarre et des pays francophones, voire anglophones. J'espère qu'il y aura une traduction après ce prix glorieux, qu'il y aura une traduction. Cet ouvrage sur la mondialisation en prix. Alors, vous posiez des questions sur comment on raconte l'histoire de la mondialisation. Nous, on s'est posé des questions sur qu'est-ce qu'on donne à Enzo comme prix, parce qu'un dessinateur de BD n'est pas forcément quelqu'un qui va se plonger dans des grimoires du 17e, du 18e, du 19e siècle, du 20e ou même du 21e siècle. Alors, on s'est dit que, je ne sais pas si Enzo est là, je ne connais pas sa culture économique, mais il y a un auteur qui a écrit sur l'argent et le travail, qui est Charles Péguy, et il y a eu, Gallimard a eu la bonne idée dans l'édition originale de faire des illustrations, donc je vous en montre une, des illustrations, des extraits de l'argent consacrés au travail. Donc je vous charge de remettre ça à Enzo. Et puis sinon, alors là on peut reprendre l'histoire de la pensée économique, l'histoire des théories économiques. Il y a un petit ouvrage sur le Cobden. Je ne dis pas aux étudiants qui est Cobden, c'est l'auteur du traité de libre-échange en 1860 entre la France et l'Angleterre, avec Michel Chevanier et Richard Cobden. Et vous apprendrez tout, puisqu'il y a une page sur Cobden dans la BD. Donc, Isabelle, le Cobden. Merci. Et alors, plus en avant encore dans la mondialisation, elle est arrivée avant, c'est elle qui a choisi, il y a un ouvrage que moi, j'aime beaucoup, qui est de Owen Post, sur la Société des Nations de l'abbaye de Saint-Pierre. Là, on remonte vraiment pour étoffer la deuxième édition du chapitre 2 sur l'historique, sur l'abbaye de Saint-Pierre et les premières formes de mondialisation. Voilà, bravo à tous les trois.
Ben, merci beaucoup. Je voudrais dire que nous sommes vraiment très fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Alors, l'histoire de cette BD, c'est qu'on a été sollicité par Hélène de Virieux, qui est éditrice aux Arènes. Et donc, elle est venue nous voir avec Sébastien pour nous demander si on était prêt à partir dans cette aventure pour faire une BD sur la mondialisation. Et donc, il a tout de suite été très clair pour Sébastien et moi que ce qu'on souhaitait faire dans cet ouvrage, c'était de donner à comprendre la mondialisation. vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, en donnant les différentes parties de la BD. Hein, qu'est-ce que la mondialisation? Comment elle se traduit? Quelle est son histoire? Quels sont ses effets? Et quel pourrait être son devenir? Alors, c'est pourquoi le fait que vous nous remettiez aujourd'hui ce prix dans la catégorie manuelle nous touche vraiment. Parce que c'est une manière de reconnaître effectivement l'objectif que nous nous étions fixés, de donner à comprendre, et donc le fait. Et ça me rappelle aussi qu'on a eu une recension dans Alternative économique qui a été faite par Olivier Passet. Alors c'était un peu prémonitoire parce qu'il disait c'est un manuel qui ne dit pas son nom. Donc voilà le fait que nous recevions aujourd'hui cette. Alors ces prix, j'ai vu, c'est à destination des étudiants, donc j'espère que ça va leur donner envie de lire notre BD, car j'imagine qu'en ce moment, ils doivent se poser de nombreuses questions, hein, avec ce qui s'est passé lors de la pandémie, avec ce qui se passe lors de l'invasion, avec l'invasion de l'Ukraine, et puis demain aussi avec la transition écologique. Et j'espère qu'ils trouveront des réponses, parce que, eh bien, ces trois événements récents nous invitent à repenser nos interdépendances, nous invitent à réfléchir à un nouveau logiciel de la mondialisation qui certes tire parti de nos interdépendances, mais aussi, il y a Enzo qui vient d'arriver, Enzo rejoins-nous, mais qui aussi nous garantissent nos approvisionnements dans un moment où le géopolitique est de plus en plus lourd, de plus en plus tendu et s'invite de plus en plus dans les questions économiques. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie de lire cette BD. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon, après, plus personne ne l'achète une fois qu'on a tout raconté. Voilà, je laisse la parole à Sébastien.
Merci, merci beaucoup pour ce prix. Je suis ravi et honoré de le recevoir. Je crois que là, au fond, la motivation de cet ouvrage, c'était de la pensée que la mondialisation est une chose trop sérieuse pour être laissée aux économistes. Et donc, la volonté d'en donner une explication qui soit pas lugubre, hein, pour reprendre le terme habituel à propos de l'économie. Et au fond, le sous-titre, ça aurait pu être tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la mondialisation sans être jamais parvenu à écouter les réponses jusqu'au bout, parce qu'elles étaient parfois complexes, souvent ennuyeuses. En tout cas, c'est souvent le retour qu'on a de beaucoup de gens sur les écrits d'économistes, même quand on essaie de les rendre aussi pédagogiques qu'on le peut. D'où l'idée du format, de se dire, voilà, il faut non seulement essayer de faire un effort de clarté, mais il faut essayer de donner envie de comprendre, parce que la mondialisation, ça nous concerne tous, de beaucoup de façons, d'une façon très tragique aujourd'hui et très saisissante, qui d'ailleurs doit amener à repenser la suite, mais enfin, de toute façon, pour essayer de réfléchir à ce que sera la suite de la mondialisation dans le contexte qui est en train de se redessiner, il faut déjà comprendre les étapes précédentes. Donc on a fait un peu cette sorte d'enquête, comment on touche la mondialisation autour de nous, c'est un peu le point de départ, hein, dans notre itinéraire, dans cette BD, comment on peut la toucher du doigt dans les objets, les entreprises, les personnes. Ensuite, comment on en est arrivé là, essayer de faire un retour sur l'histoire, et puis enfin revenir à ce que sont les questions d'actualité, ces questions de la vie citoyenne, hein, finalement. Effectivement, je ne vais pas non plus en dire trop et déflorer le sujet, mais s'il y a une conclusion, je pense, qu'on tire de ça, ou un message qu'on voudrait affirmer, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est une construction liée à des événements, à des décisions, à des femmes et des hommes. Et donc, on essaie d'en raconter les épisodes, de mettre à plat les questions que ça pose, les défis auxquels ça nous confronte, en soulignant le fait que tout ça se construit de beaucoup de façons différentes. Merci à tous, en tout cas, et merci pour ces sources d'enrichissement futures. Et puis, évidemment, la BD, c'est aussi une façon de combiner le texte et le visuel. Et donc, Enzo, il te reste à commenter la partie visuelle.
Bonjour à tous, et j'avais pas prévu d'intervenir ni faire de grands discours, mais merci beaucoup pour ce prix. Effectivement, moi j'ai une double casquette, c'est un peu dessinateur et journaliste économique, et donc vraiment très attaché à l'enjeu de rendre l'économie la donner à tout le monde, que tout le monde puisse s'en saisir. Et pour ça, je suis convaincu que la bande dessinée est un médium assez puissant. C'était un projet assez passionnant aussi de confrontation entre avec Isabelle et Sébastien. Comment arriver à rendre ça accessible au plus grand nombre sans trahir le propos et tout en restant rigoureux sur le fond. Alors j'espère qu'on a réussi à relever ce défi-là. Et voilà, j'espère que la BD vous plaira. Merci à tous.
Un dernier point avant de passer aux tables rondes. Je voulais remercier le merveilleux libraire, si vous avez besoin d'ouvrages anciens en économie, la librairie Patrick Hetchwell, qui est rue Monge, et qui nous aide. On passe chaque année 4 ou 5 heures à essayer de trouver des ouvrages qui correspondent à ce qu'on connaît des auteurs, au thème des bouquins, etc. Donc, merci à Patrick qui devait être là et qui, au dernier moment, n'a pas pu venir.
Merci aux trois auteurs. Je voulais juste dire une chose, parce que les trois ouvrages aussi apportent quelque chose par rapport aux économistes. Je trouve très intéressant d'être accessible, très accessible. Alors sur la mondialisation, je trouve que l'idée de la BD, c'est génial. Surtout moi qui avais fait un manuel académique sur l'économie de la mondialisation, je me dis, mais c'est infiniment plus intelligent d'être entré par cette voie-là, et on y prend un incroyable plaisir. Sur les banques centrales qui souvent paraissent techniques et éloignées, ramener la question avec l'État-providence et la démocratie, et en même temps arriver à glisser toute l'explication sur la création monétaire et le crédit à l'intérieur d'un tout petit livre, je me dis c'est un tour de force absolument incroyable et on prend un incroyable plaisir à le lire. Et puis alors sur l'emploi et le territoire, je l'ai testé la semaine dernière directement avec des étudiants à Grenoble, et pour la première fois en utilisant ce bouquin là ils m'ont dit, mais le marché du travail, on comprend un nombre de choses incroyables, et tous les fameux problèmes d'appariement, le fait que malgré tout il y a toujours du chômage, d'un seul coup devenait beaucoup plus évident. Donc je me dis, ce petit bouquin a aussi une manière de répondre très très concrète. Quand on nous dit que les économistes sont trop abstraits, trop théoriques, et ben là, on a avec ces trois ouvrages-là la démonstration que les économistes sont capables, au contraire, d'apporter des réponses très concrètes.